Bonsoir, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes dans ce libre journal de la résistance française. Je remercie Aline pour la réalisation de cette émission. Nous sommes en direct, chers auditeurs. En direct, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'hésitez pas surtout à envoyer par courriel électronique exclusivement eh bien, vos questions, remarques, observations, coup de cœur, coup de gueule. N'hésitez surtout pas hein, avec nos invités, eh bien, nous vous répondrons avec grand plaisir, bien sûr. Alors, l'invité du jour, ce sera Michel Fize. Michel Fize pour son livre « Dans la tête de Macron ». C'est le titre de cette émission, 14 juillet, « Dans la tête de Macron ». C'est pas simple. C'est un véritable labyrinthe dans lequel l'auteur, le sociologue Michel Fize, est allé. Avait-il un fil d'Ariane pour s'y retrouver? Eh bien, on va lui poser la question tout à l'heure après la revue de presse. Et d'abord, on le salue puisqu'il est là. Bonsoir Michel.
Bonsoir Nicolas.
Voilà, donc Michel Fize que nous retrouverons dans une vingtaine de minutes après une revue de presse que j'ai la chance de pouvoir faire ce soir puisqu'elle est là parmi nous. Hein, voilà, elle a lâché un petit peu ses émissions sur GPTV pour eh bien, pouvoir venir m'assister. C'est le cas un mercredi sur deux dans ses libres journaux. Il s'agit de Lara Stam. Bonsoir ma chère Lara, enchantée de te retrouver.
Bonsoir Nicolas, bonsoir chers auditeurs, ravi de vous retrouver et également.
Voilà. Alors, écoutez, on commence la revue de presse, si vous le voulez bien. Cette revue de presse, elle va
Nicolas,
tourner entre...
On vous remercie la technique, n'oublions pas.
Aline.
Remercions Aline pour cette réalisation.
Bien sûr, nous remercions Aline pour la réalisation de cette émission. Alors, nous avons eu un 14 juillet qui ressemblait à tout sauf à une fête nationale. Il faut bien le reconnaître, chers auditeurs. Cette fête nationale, elle nous a été volée. Ce fut le 14 juillet du défilé de la honte avec un défilé européano-ukrainien. Voilà. Il y avait toutes les forces de la coalition des volontaires, il y avait un petit bataillon d'Ukrainiens, il y avait des dizaines de chefs d'État de la coalition des volontaires, il y avait Zelensky, évidemment, la Madone de Kiev était présent sur les Champs-Élysées à la tribune d'honneur, à côté de Brigitte Macron, hein, notre premier drame de France. Qui était là, tout en blanc immaculé pour Brigitte. Elle a osé. Et donc Zelensky, tout comme Zelenskaya, Madame Zelensky, Madame Zelenskaya, hein, tout ce beau monde s'est embrassé, embrassons-nous Folleville. On était dans l'entre-soi, on était dans la familiarité. Ça avait quelque chose qui est typique de ces parvenus du pouvoir, dont les Macron sont de parfaits exemples, ces parvenus du pouvoir, eh bien, sont dans les embrassades. On veut montrer à la terre entière que l'on est content, que l'on est fier d'être avec ses amis de la haute société politique internationale. Et donc, on a manifesté justement toute cette proximité. J'ai envie de dire des fois même promiscuité, hein, tellement avec Macron, c'est jamais très sain. Hein. On sait, il papouille, il embrasse chaudement, il tient très longtemps la main. Voilà, donc ça c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, ce 14 juillet, eh bien, il nous a été volé. Il fallait un QR code. C'est avec un imbroglio juridique absolument incroyable. D'abord, on avait le QR code. Après, le tribunal administratif a supprimé le QR code. Et finalement, le Conseil d'État, hein, qui a un nouveau premier vice-président depuis peu nommé par Macron, hein, évidemment, puisque Macron a nommé tout le monde. À la Banque de France, il a renouvelé. À la Cour des comptes, il a renouvelé. Au Conseil des pseudo-sages de la rue Montansier, il a renouvelé, c'est le Conseil constitutionnel. Hein, il a mis ses hommes à lui un petit peu partout, Macron, à la préfecture de police de Paris, évidemment. Et donc, ça donne pas l'impression de quelqu'un qui veut partir, d'ailleurs, hein, entre nous soit dit. Alors. Et donc, il a le QR code, finalement, en pleine nuit, à 3h du matin, avec un des porte-coton de Macron, nommé par Macron, eh bien, a restauré le QR code, ce qui veut dire que, bien, et ça a été testé par un certain nombre de médias et de journalistes indépendants qui ont essayé de se rendre à cette cérémonie et qui se sont vus, eh bien, l'entrée sur les Champs-Élysées refusée par la maréchaussée. Hein, ils étaient tous les spectateurs étaient de toute façon derrière des barricades, hein, des barrières, de fortes barrières. Lorsque Macron a remonté avec le colonel Soja, hein, le général Mandon, nommé aussi dernièrement par Macron, chef d'état-major des armées, avec son commande-car, les Champs-Élysées, il a été copieusement sifflé par la foule, mais évidemment, les médias de grand chemin, médias mainstream, avaient appliqué un filtre pour que cela ne soit pas entendu. Par contre, hein, ils ont glosé sur, paraît-il, les forts applaudissements que la foule aurait réservés à Zelensky et Zelinskaya. Je ne sais pas, c'est la rame dira, je parle sous son autorité, si c'est bien ainsi qu'on doit nommer la femme de la Madone de Kiev, du mendiant de Kiev, Volodymyr Zelensky. Donc voilà, on avait ça. La veille, il y avait déjà eu un discours aux armées où Macron eh bien, avait montré qu'il était bien à l'origine de la sortie de Mandon, qui, à l'époque, ça avait beaucoup fait couler d'encre, avait dit qu'il fallait être prêt à sacrifier ses enfants. Macron, le 13, au discours aux armées, eh bien, a parlé de défendre la liberté, même si ce devait être au prix du sang. Voilà, hein, ça ne sera pas le sien, évidemment. De toute façon, c'est le problème avec ces gens qui n'ont pas d'enfants, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est dommage, parce qu'on les aurait bien envoyés, les enfants ou petits-enfants de Macron, au hachoir à viande, jouer la chair à canon en Ukraine. Ça lui aurait appris un petit peu à éviter de raconter n'importe quoi. Donc voilà, il est belliciste, il veut la guerre, il sait que c'est le seul moyen pour lui de s'en sortir à tout prix, et ça on verra ça avec Michel Fize tout à l'heure, eh bien ça lui a permis, cette séquence du 14 juillet, Macron, à être au centre de tout. C'est ce qu'il aime le plus au monde, c'est être au centre de tous les regards, de toutes les attentions. C'est le cas de ce genre de mégalomane. Et le soir, il espérait bien une victoire de l'équipe de France de football. Bah oui, l'équipe de France de football, la victoire, ça aurait permis, alors là, une séquence avec les médias larbins pendant au moins 4 jours, 4-5 jours, où il n'y aurait eu que du Macron, que de la Brigitte, pendant 4 jours, où on n'aurait parlé que de ça, de la finale, de Dédé, hein, Dédé c'est Didier Deschamps, de Kiki, c'est Kylian Mbappé, et de Manu, hein, les meilleurs amis du monde, et puis de Brigitte, puisque Brigitte, on le sait, eh bien, elle est présidente la fondation des pièces jaunes. Rends les pièces jaunes, rends les pièces jaunes, Brigitte, et elle a comme co-porte-parole Dédé, donc Didier Deschamps, qui avait dit d'ailleurs à ses joueurs, le président, je l'ai eu au téléphone, il vous souhaite bonne chance. Ben, ça n'a pas suffi, parce que, eh bien, ils ont perdu. Ils ont perdu la demi-finale. Hein, si j'ai une joie, une seule, de cette défaite, c'est de voir, ça va priver Macron. Benalla était déjà prêt à préparer le quart sur les Champs-Élysées. Eh bien, c'est pas de chance, il y aura pas de festivités sur les Champs-Élysées. Il se pensait qu'il allait enfiler les séquences après le 14 juillet, que ça allait être le bonheur pour lui, et qu'il allait encore, comme le dit fort bien Michel Fize, se mettre au centre de tout. Eh ben, pas de bol, Manu. Voilà, voilà un petit peu, là, je voulais introduire comme ça la revue de presse. Lara, qu'est-ce que vous inspire un peu ces séquences, là, depuis le 13-14 juillet ?
Bah, écoutez, Nicolas, déjà, j'ai vu, comme vous, comme nous tous, je crois, fleurir ces QR codes sur Twitter. Il semblerait qu'à ce moment-là, nous étions, lorsque vous obteniez votre QR code, vous étiez personnellement invité par Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron pour assister au défilé du 14 juillet. C'est dire à quel point la fête est devenue privatisée. La fête est devenue quelque chose qui a été ôté au peuple français. Ça me désole, ça me scandalise, Ce qui me scandalise également, c'est ce défilé qui était fait à l'image des défilés, soi-disant à l'image hein, des défilés de Moscou, sauf qu'à Moscou, ce n'est pas un défilé de guerre, c'est un défilé de vainqueurs qu'ils organisent et ce n'est pas, c'est pas pour appeler à combattre quelqu'un. Lorsque ces défilés sont mis en place, vous avez tous les vétérans des guerres qui sont mis à l'honneur. Et c'est eux qui assistent à cette parade militaire. Donc, la différence, c'est vraiment la teneur en message de ces défilés, ce que j'ai pu constater. Et j'ai pu aussi constater que les commentateurs, nos journalistes qui nous ont pendant longtemps nourris à l'idée que l'Europe, c'est la paix, pour avoir la paix, il faut l'Europe. Faut encore plus d'Europe. À chaque fois, ils nous ont nourris à ça. Le mot paix a été prononcé qu'une seule fois lors de ces défilés par des journalistes. Et je peux dire le contexte était aussi surprenant. C'était les gardiens de la paix. Lorsque c'est les gardiens de la paix qui ont défilé, qu'on a entendu le mot paix. Voilà, ça c'est mon commentaire personnel. Ça me désole pour le peuple français. Je me sens parfaitement française et française de conscience. J'ai choisi d'être française. Donc ça me fait très mal et c'est la raison pour laquelle il a fallu laver l'honneur et aller défiler avec les drapeaux bleu, blanc, rouge, chose qu'on a pu faire avec la manifestation de Florian Philippot, les Patriotes, et ça m'a fait vraiment du baume au cœur. Et encore plus, alors que je suis vraiment fervente amatrice des mondiaux, je regarde toujours avec plaisir les matchs. Là, c'était la première fois où je priais le ciel pour qu'il ne gagne pas parce que je ne voulais pas un deuxième affront à ma ville, enfin à la ville à la capitale de la France, parce qu'on savait ce que ça allait devenir si on gagnait. Et donc, quelque part, il fallait que ce jour-là, ça s'arrête et qu'il n'y ait pas de débordement lié en plus au 14 juillet avec ces racailles qui allaient brûler. Fêtant entre guillemets une victoire. Donc voilà, deux satisfactions en fin de journée, c'est Florian Philippot avec sa manifestation de 14 juillet et fête nationale et la défaite des Bleus parce que encore une fois, il fallait pas que ce jour-là il gagne et il ne fallait pas qu'Emmanuel Macron puisse encore une fois se pavaner alors même que le peuple souffre et je pense qu'aujourd'hui la France souffre. Un petit commentaire aussi sur Zelenskaya. Effectivement, il faut décliner hein, lorsque les noms de famille se terminent par I. Il faut décliner. Beaucoup de Russes ont eu des soucis lorsqu'ils sont arrivés en France et qu'ils ont naturalisé leur nom. C'était un casse-tête parce que, effectivement, quand ils sont mariés, c'est décliné en Aya pour la femme. Et donc, forcément, c'était un deuxième casse-tête en plus du patronyme. Donc voilà, c'est Olena Zelenskaya, sachant qu'à la base c'est Aleona Zelenskaya, et puis l'autre il s'appelle Vladimir Zelensky. Donc c'est pas parce que il a voulu ukrainiser et enlever toute notion du russe de son nom que ça a plus de sens. Voilà.
Oui, tout à fait, Lara. Bon, la racaille, il ne faut pas s'inquiéter pour elle. Le 14 juillet, elle n'a pas pu, contrairement d'ailleurs au bon peuple de France.
Il y avait moins de ferveur.
Oui, il y avait moins de ferveur sur les Champs-Élysées où ils auraient pu accéder sans QR code, voilà. Hein, contrairement au bon peuple de France, pour tout casser, comme ils le font d'habitude quand il y a des victoires de l'équipe de France ou du Paris Saint-Germain. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont brûlé les voitures par centaines dans leur cité et ailleurs. Ça, on peut leur faire confiance. La racaille elle a eu le droit de citer le 14 au soir, ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs. La racaille qui d'ailleurs, une certaine crasse, elle est fils d'extrême gauche, qui a trouvé le responsable, le coupable de cette défaite de l'équipe de France de football, eh bien, c'est Luc Adigne, ce vilain, cet horrible gouir, dit-on dans le vocabulaire de la racaille. De Boulevard Voltaire qui en parle, qui explique que, eh bien, il y a eu un déchaînement de haine, de cyberharcèlement contre le malheureux Luc Adigne, parce que, eh bien, c'était lui à cause du penalty concédé à l'équipe d'Espagne. C'était ce ouvrez les guillemets, sale blanc, qui était à l'origine de la défaite de l'équipe de France. Et c'était d'ailleurs le seul blanc de l'équipe. Et alors, en effet, hein, cette belle équipe black, blanc, bleu, beurre qu'on nous avait vantée en 1998, il est vrai, est maintenant plutôt black. Et ce digne fait tâche.
C'est hein. black, beurre.
Voilà, donc là, voilà, oui, là, mais là, ça fait tâche. Donc, c'est cet horrible gouire. Comme le disent évidemment, on n'a rien entendu, hein, c'est-à-dire que lorsque le malheureux Kylian Mbappé s'est fait accrocher par à la fois par une députée paraguayenne et ceux qui ont dit mais cette équipe de France quand même il y a pas beaucoup de Français alors là ça a été lundi pratiquement eu une journée de deuil national hein. C'est là tout le monde de en particulier Roussel, Faure, les socialistes communistes ont poussé des cris sur le retour de la le fécond toujours le ventre qui a vu la bête immonde hein, évidemment c'est le racisme le plus écœurant, le plus répugnant. Il n'avait pas de mots assez forts pour d'indignation. Par contre là c'est Lucas Digne insulté de sale blanc. Ça n'a pas eu l'air de les déranger plus que ça. Rien. Silence.
Tout comme ça les a pas dérangés le défilé ultramilitaire, alors même qu'ils étaient contre la patrouille de France il y a encore quelques années. Ils ne voulaient plus qu'il y ait le défilé militaire du tout.
On rappelle que toute cette gauche était pacifiste à une époque.
Ah oui.
C'est fini, hein, la
Nous,
gauche pacifiste.
On s'en souvient, on est là pour le rappeler.
On disait à une époque les missiles sont à l'est et les pacifiques à l'ouest et les pacifistes à l'ouest. Maintenant ces pacifistes semble-t-il en tout cas ils sont plus à l'ouest. Donc oui voilà. On continue cette revue de presse par des éléments. Alors un élément important, un rapport du Sénat, Lara. Sur le droit d'ingérence intérieure qui fait peur, qui devrait faire peur à Radio Courtoisie, à tous les médias indépendants, le droit d'ingérence intérieure qu'ils aimeraient faire appliquer avant l'élection présidentielle de 2027, c'est un rapport qui tend à cibler tous ceux qui vont s'éloigner de la doxa et du discours dominant. Donc il y a l'ingérence extérieure, on le sait, c'est les Russes, hein, pour un seul mot. Et ça peut valoir de gros soucis s'il y a preuve, hein, comme par exemple le malheureux candidat Calin Georgescu en Roumanie, qui a même été, alors qu'il allait déposer son dossier de candidature au deuxième tour, il était quasiment assuré de gagner, il a été arrêté par la fliquerie européiste et empêché de se présenter. Donc on imagine bien que si. Parce que accusé d'avoir profité d'ingérence de la Russie sur les élections roumaines, hein, c'est comme ça.
À travers TikTok, voilà.
C'est de la faute des Russes et des Chinois, comme ça, c'est bien.
Ouais, voilà.
Et donc ça, l'ingérence extérieure, on le sait, si quelqu'un qui est hostile à la doxa générale, eh bien, il sera accusé, évidemment, d'avoir obtenu des subsides, certainement, de la Russie, donc ingérence extérieure. Mais alors, s'ajoute maintenant une ingérence intérieure, c'est-à-dire sur les fake news, hein, des organismes soi-disant indépendants, des associations certainement hein, tout à fait bien pensantes qui dénonceront hein, tout est on est sur le régime de la dénonciation hein, c'est comme ça dans les régimes autoritaires voire totalitaires et donc nous serons dénoncés tous ceux qui tiennent un discours qui n'est pas celui du discours officiel. Il y aura ce sont de dangereux fake news, fausses informations et donc ils seront non seulement pointés du doigt, on pourra les invisibiliser sur les réseaux sociaux, voire même les envoyer devant la justice. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
NKVD, hein, cher Nicolas, NKVD, et puis le comité de censure en URSS, mais une URSS jeune, très très jeune. Vraiment à l'époque de la terreur. La terreur qui était là pour mettre la main à travers les lettres anonymes aussi. Puis ça crée des emplois, hein, il va falloir financer tout ça, mettre en place les comités. Faudrait qu'ils pensent à éduquer avant, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont plus aucune référence historique, donc qui n'ont pas beaucoup de base pour le faire. Ça, c'est navrant, et donc ça va être difficile. de se défendre auprès des gens qui n'ont aucune référence historique valable. Voilà, ils ont été éduqués par éducation nationale, donc avec davantage de valeurs LGBT que de véritables savoirs en histoire et autres.
Est-ce que je peux rajouter deux petites choses?
Alors, bien sûr, mon cher Michel, bon. Venez profiter, alors, venez vous joindre à nous sur cette revue de presse. Allez-y, allez-y, oui, nous vous écoutons, Michel Fils. Ben,
ce matin, sur GPTV, je parlais de l'importance des mots. Voilà. Alors, voilà quelque chose de significatif. Un mot qui en a bousculé un autre. Donc, un mot qui est devenu négatif par rapport à quelque chose qui était, en tout cas, convenu, légitime. Eh bien, il n'y a plus d'espionnage, il n'y a que de l'ingérence. Donc, l'ingérence, ce n'est pas bien, voilà. Mais l'espionnage, on n'en parle plus. Mais tous les États ont toujours pratiqué l'espionnage. Ce sont des pratiques, alors, sinon légales, du moins légitimes. Les États espionnent les États depuis l'aube des temps, il en sera toujours ainsi. Voilà, mais voilà, donc maintenant, on dit « c'est pas bien », et comme, évidemment, pour marquer que c'est pas bien, on dit « c'est de l'ingérence », voilà. Alors, deuxième chose, je pense qu'il y a quelque chose, je crois qu'il ne faudrait pas oublier, qui pend, qui est une menace à compter du 1er septembre prochain. Il me semble qu'il faudra, pour s'abonner aux réseaux sociaux, produire sa carte d'identité.
Oui,
sociaux et chaîne YouTube en particulier. Donc, à mon avis, c'est au moins aussi important que tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, parce que là, c'est une censure directe. Là, c'est une censure directe. Hein. Voilà. Et alors, la troisième chose, bon, pour mon amour du football et pour revenir donc à la scène donc Lucadigne, bon, je dis clairement, il n'y avait pas pénalty. Il n'y avait pas pénalty. Pour quelle raison? Ben, tout simplement parce qu'on a oublié le point principal de la règle, il faut l'intentionnalité. Voilà. Donc, est-ce que ce pauvre Lucadigne avait l'intention de faire tomber son adversaire? Évidemment pas. Il a été surpris. Voilà. Et en plus, bon, on a bien vu qu'il n'y avait pas, qu'il a évidemment exagéré son plongeon. Voilà. Donc, il n'y avait pas pénalty. Alors, ça pose des problèmes d'arbitrage parce que, bon, on a introduit la VAR, mais la VAR, elle intervient ou elle n'intervient pas. Elle est interprétée, suivie ou pas suivie. Voilà. Donc, c'est vraiment un grand merdier, hein, l'arbitrage des matchs. Alors, je ne dis pas des matchs de coupe de championnat du monde, hein, bien sûr.
Et qu'est-ce que vous inspire
aux États-Unis, n'oublions pas, hein, Infantino a des conversations quotidiennes avec Donald Trump.
Faut
pas
voilà.
Oublier ça.
Infantino.
Alors, je donne pas cher de l'Angleterre demain, hein, parce que Milei, à mon avis, il est aussi en conversation avec Donald Trump.
Voilà, l'Argentine, semble-t-il, est l'équipe favorisée depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais alors, ce qui a été le
et
plus drôle, c'est en effet…
Et la soutien des peuples hispaniques de là-bas, fallait leur laisser la place. Enfin, moi, je trouve que l'arbitre, il a été aussi, dès le départ, fallait trouver un moyen.
Non, et puis alors, il y a quand même eu Lara, donc l'épisode surréaliste de Trump qui a demandé et qui a obtenu d'ailleurs le retrait d'un carton rouge qui a permis, je crois, au capitaine de l'équipe des États-Unis de jouer alors qu'il ne devait pas jouer. Et Infantino s'est exécuté et il le dit eh bien tous les jours. Infantino est un peu au football ce que Mark Rutte est à l'OTAN, une espèce de flagorneur invétéré du bonhomme orange. D'ailleurs, il a essayé de se défendre, Infantino, en disant non, on a retiré le carton rouge, ça n'a rien à voir avec Donald Trump.
Et Donald Trump a dit si.
Mais le bonhomme orange a dit si. Il s'est vanté,
merci
bien
beaucoup.
Sûr. Voilà, il a dit merci beaucoup. Tiens, parlons-en un peu de notre bonhomme orange, ça peut être le moment peut-être d'en parler. Il a perdu son grand ami Lindsey Graham. Et alors, c'est une des dernières sorties en date, une des plus grotesques de ce malheureux président dont on voit que la vieillesse est quand même un naufrage. Le déclin cognitif est de plus en plus flagrant, de façon très différente de Sleepy Joe, le Joe l'endormi, hein, Joe
il
Biden.
Il était endormi au moins.
Non, mais lui, il a été d'une sénilité absolue. Mais alors celui-là, on sent qu'on est au début de la maladie. Donc il est grossier, il est très compliqué à gérer, je crois, pour tout le monde et certainement aussi pour son entourage. Et donc là, il a déclaré qu'il va sanctionner, tenez-vous bien, la Russie, l'Iran et le Hezbollah en l'honneur de Lindsey Graham. En l'honneur donc du faucon néo-conservateur Lindsey Graham qui a perdu la vie, on ne sait pas trop dans quelles conditions. Est-ce qu'il a reçu un missile hypersonique sur le coin du nez par les Russes? Est-ce qu'il a été empoisonné par les Iraniens? Ou bien est-ce qu'il est bien mort d'une artérosclérose qui a provoqué un déchirement de l'aorte? En tous les cas, c'était le grand ami de Trump. Et donc, il a décidé qu'il allait sanctionner. Voilà, et on sanctionne des pays en l'honneur de son meilleur ami. C'est inouï.
Et c'est inouï et c'est pas fini. C'est-à-dire que Donald Trump a demandé aux républicains que Lindsey Graham soit remplacé par sa sœur. Et ça a été accepté. Ça y est, la sœur Darlene Graham a pris place jusqu'à la fin du mandat de Lindsey Graham, de sénatrice de la Caroline du Sud, à la demande de Donald Trump. Et là, ça y est, elle a prêté serment. Mais c'est lunaire! C'est lunaire, c'est démocratie, c'est hallucinant. Ils envoient des soldats mourir pour leur démocratie, ils pratiquent ce genre de choses. Enfin, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots.
C'est vrai, parce que jusqu'au dernier Ukrainien, ce sont des centaines de milliers de morts d'une guerre qui a été en partie déclenchée par les États-Unis pour la
Pour sauver
démocratie,
la
justement.
démocratie, voilà.
C'est ce que pense Macron, en tous les cas. Et voilà un peu voilà un peu la démocratie telle qu'elle nous est présentée. Vous avez une réaction, Michel, par rapport à ça?
Et juste avant Michel, juste je rajoute aussi que n'oublions pas notre Zelensky qui depuis 2 ans est complètement illégitime, mais qui se permet de reformer, démissionner son gouvernement et former un nouveau gouvernement. Tout ça sous les yeux ébahis de l'Europe qui ne dit jamais ce qu'il est la vérité.
Non,
Michel.
je crois que sur la question de la démocratie, bah évidemment, il y a toutes sortes de démocraties. Avec Trump, on a un deuxième exemple de démocratie autoritaire, hein, qui se dispense de l'application des normes, qui ruse évidemment par rapport notamment à l'exercice du droit de paix et de guerre. Il faudrait vraiment avoir conscience que le droit de paix et de guerre ne peut être décidé que par le peuple, soit directement, par voie de référendum, soit par ses représentants, c'est-à-dire les parlementaires. Hein, le droit de décider la guerre ne devrait pas appartenir à un seul homme, surtout quand cet homme est à la tête d'un État qui dispose de la dissuasion nucléaire. Voilà. Je crois que la guerre, c'est quelque chose de trop, trop, trop sérieux pour échapper, encore une fois, à l'ensemble des citoyens. Ce sont les citoyens qui doivent décider du destin de leur pays, guerre ou pas guerre.
On est d'accord, tout à fait, Michel. Et alors, on va donner un exemple de l'ingérence intérieure de ce qui pourrait être demain censuré, valoir les tribunaux. Une information qui me paraît d'être pour lequel j'ai la plus grande suspicion, le plus gros doute, qui est lié justement à la propagande de cette guerre en Ukraine. Eh bien, voilà que des États baltes, la Lituanie et la Lettonie en particulier avertissent la Russie, tenez-vous bien Lara, la Russie et Michel, eh bien la Russie prépare des attaques contre des infrastructures critiques dans les États baltes ou en Pologne. Il y avait déjà cette quasi-certitude que les services américains avaient dit, attention, l'affreux Poutine va frapper la Pologne. Eh bien maintenant, c'est carrément les pays baltes ou la Pologne qui risquent d'être frappés. C'est pratiquement parole d'évangile. Il y a un long article, pour ne pas le citer, dans le Figaro, hein, où évidemment on donne droit à ce type d'informations hautement fantaisistes. Et alors, il est vrai, à un moment donné, Peskov est quand même cité, mais vraiment à la fin de l'article, Peskov, donc le porte-parole du Kremlin, qui est cité et qui dit « Ce n'est qu'un nouveau lot de contes à faire peur, destiné à maintenir le lavage de cerveau et à préparer la population à une militarisation accrue. » Voilà, c'est tout ce qui est sur un océan donc de certitudes. J'ai envie de dire, voilà, un média indépendant dirait qu'il émet les plus grands doutes sur cette information d'attaque imminente des Russes contre les pays baltes, est-ce que quelque part ce ne serait pas de l'ingérence intérieure le journaliste et le média qui auraient dit ça ne seraient-ils pas sanctionnés? Est-ce que je pourrais dire ça encore demain avec cette loi sur Radio Courtoisie? Je pose la question.
Ah, je vous rassure que non, Nicolas. De mon expérience de l'URSS, même la fin, c'est-à-dire l'URSS déjà en état de mort cérébrale, les capteurs étaient toujours en place pour signaler et pour dénoncer tous ceux qui pratiquaient ce qu'on appelle ici donc l'ingérence intérieure. L'ingérence intérieure, ça veut dire quoi? Bah, pour moi, c'est voilà, un délit d'opinion. Vous n'êtes pas dans le droit chemin de ce qui doit être pensé. Ça, sans l'idéologie, sans l'idéal communiste, parce que n'oublions pas quand même qu'à l'origine, c'était un idéal au communisme. Donc sans idéologie communiste, on a tous les autres aspects horribles de cette idéologie.
Michel, vous avez une réaction par rapport à cela?
J'ai une réflexion sur le statut qui, de fait, est accordé à la guerre. Hein. Il faut quand même rappeler que plus de la moitié de la planète est aujourd'hui en conflit. Donc les hommes sont victimes des guerres, sont victimes de la faim, sont victimes des intempéries, sont victimes de maltraitance, sont victimes de sauvageries diverses. Je crois qu'il faudrait revenir à la philosophie d'Emmanuel Kant. Hein. Alors, peut-être ne rêvons pas d'une paix perpétuelle, mais on pourrait peut-être tout de même s'éviter la guerre perpétuelle. Parce que de fait, depuis 1945, entre les conflits locaux ici ou là, on est en état de guerre permanente. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une belle idée qui a été galvaudée, c'est pacifisme. Parce que le pacifisme a été assimilé à de la faiblesse. Mais il faudrait peut-être réinventer un nouveau pacifisme. Un pacifisme qui ne soit pas une naïveté. Voilà. Et puis sortir des adjectifs qualificatifs qui font qu'il y aurait des conflits qui seraient justes et d'autres pas. Il n'y a pas de guerre juste, il n'y a pas de guerre. Une guerre, c'est des morts. Voilà. Et des morts, c'est des atteintes à la vie. Voilà. La guerre, c'est de l'euthanasie permanente. C'est de l'euthanasie permanente. Bon, c'est indigne qu'en 2026, on en soit encore à régler des questions de territoire, des questions d'ambition, des questions d'économie par le fait qu'on envoie évidemment des jeunes hommes se faire massacrer chair à canon de tous les côtés. Voilà. Ni vainqueurs, ni vaincus, tous tués. C'est un peu le résumé finalement de tout ce qui se passe par le monde aujourd'hui. Voilà. Et ce sont encore les jeunes qui trinquent. Voilà. J'avais dit un jour, mais finalement, peut-être qu'on devrait envoyer les vieux faire la guerre. Ça irait moins vite, et alors? Eh ben, pendant ce temps-là, les jeunes vivraient et préparaient leur avenir. Enfin, je suis un grand idéaliste, hein, donc.
Ah non, mais on pourrait, là, par exemple, je pense que tous nos militaires de plateau, là, tous nos va-t-en-guerre de médias officiels, on pourrait les envoyer, en effet, faire la guerre. Toute cette belle ribambelle, toute cette brochette qu'il y a eu le 14 juillet sur l'estrade d'honneur, envoyons-les faire la guerre, évidemment.
Oui,
Le fils Macron.
le pacifisme n'est pas un gros mot. Voilà. Comme la souveraineté populaire, c'est une grande ambition. Voilà. Mais il faut lui donner corps. Hein. Faut pas répéter comme un perroquet, souveraineté, 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 et puis faire dans son coin de l'individualisme forcené, empêchant tout rassemblement de forces qui, conjuguées, pourraient évidemment s'instituer en contre-pouvoir. Mais je vous l'ai dit, hein, on l'a dit souvent aussi sur les plateaux de GPTV, nous sommes dans l'individualisme triomphant. Donc chacun, quelque part, se vit comme un roi, donc il n'accepte aucune légitimité de personne. La première grande crise de ce monde, c'est la crise des légitimités. Voilà, plus rien n'est reconnu comme étant légitime. La disparition de toutes les hiérarchies. Alors c'est vrai qu'il y en avait qui étaient scandaleuses, voilà. Mais je ne connais pas de monde où on soit en état d'égalitarisme absolu, total. Voilà, il faut des références, il faut des influences, voilà, il faut des directions. Hein, De Gaulle aurait dit un grand dessein. Bah, je dirais même aujourd'hui, si on avait simplement un petit dessein, ce serait déjà pas si mal. Hein. Où sont les desseins des prochains candidats et candidates à l'élection présidentielle? Il n'y a pas de dessein, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est occuper le trône. Voilà, je le dis tel que je pense, hein, et quel qu'il soit, ils veulent occuper le trône. Bah oui, c'est gratifiant le trône. Hein. On peut faire des défilés à 3,5 millions d'euros, comme je le disais ce matin. Hein, des défilés. Voilà, d'ailleurs, le défilé du 14 juillet, c'est pas une scène de théâtre où le metteur en scène peut faire ce qu'il veut. Il faudrait sans doute encadrer. Voilà, mais dire un défilé, c'est 1 heure. C'est pas 2 heures et demie, bah, où tout le monde s'ennuie. Parce que bon, quand on a vu passer 3 véhicules blindés, le quatrième, on l'a au-dessus de la tête. Voilà. Et quand on a vu défiler 300 hommes, bah, on n'a pas envie de voir défiler les 6 000 qui restent à défiler. Voilà. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut, pas beaucoup d'encadrement. Ben, il faudrait encadrer des choses qui méritent d'être encadrées. Voilà.
Bien, merci Michel. Lara, vous vouliez ajouter quelque chose avant une dernière information pour la bonne bouche.
Oui, je voulais rajouter, faisant référence à votre expression de tout à l'heure, les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest.
À l'ouest, c'est ce qu'on disait.
C'est ce qu'on disait, mais il y avait aussi un dicton, et il existe toujours en Russie, on dit « la mauvaise paix est toujours mieux qu'une bonne guerre ». C'est un dicton que tous les Russes connaissent, et tous les enfants connaissent aussi une chanson d'enfant qui traite justement de cette question « Khatiat les Ruski vaini » veulent-ils les Russes de la guerre ? Et c'est très parlant. Éduque bien les petits-enfants russes au fait que la guerre, c'est pas beau. La guerre, c'est pas la parade. Rien à voir. Faut vraiment payer son tribut en termes de malheur, de chagrin et de douleur avant de pouvoir se parader un jour si on arrive à gagner la guerre. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Il faudrait peut-être rappeler d'ailleurs qu'on oublie aussi que déjà du temps de l'Union soviétique, l'Union soviétique a pris quantité d'initiatives en faveur de la paix. Hein, bon, j'avais expliqué ça dans un écrit il y a quelques années. Bah donc, la guerre froide, ça a été aussi un temps où il y avait de la part des soviétiques des initiatives en faveur de la paix. Voilà. Et donc, je suis heureux d'entendre qu'effectivement, on enseigne aux jeunes Russes bon, que mieux vaut une mauvaise paix qu'une guerre. Alors, est-ce qu'il y a de bonnes guerres ? Non. Parce que de bonne guerre, même maintenant, on ne sait plus qui est vainqueur, qui est vaincu. Voilà. Chacun décide maintenant, vous voyez, individualisme aidant, chacun décide s'il a gagné ou pas. Voilà. Donc, les Américains disent qu'ils ont gagné, les Iraniens disent qu'ils ont gagné.
Ils prennent le mur de la réalité derrière, hein, de toute façon.
Voilà, mais on finit par être intoxiqué par le verdict des protagonistes qui décident eux-mêmes si la guerre est gagnée ou pas. Voilà. C'est assez terrifiant comme situation.
Et puis, si je peux rajouter juste une dernière chose, Nicolas, sur ce sujet, c'est qu'encore une fois, tous les plateaux, LCI, BFM, CNews, les chaînes en continu, d'information en continu, nous racontent tout le temps à quel point la Russie est nulle en matière militaire, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de carburant, elle est privée de tout, elle est bombardée sans arrêt par des drones et par des sophistiqués ukrainiens qui arrivent à tout surmonter. Mais lorsque vous perdez une guerre, vous n'ouvrez pas un nouveau front. Lorsque vous n'êtes pas capable de prendre le Donbass, c'est ce qu'on explique, ils se battent depuis 10 ans, ils n'arrivent pas à le prendre. Mais pourquoi vous irez chercher la Pologne ou encore mieux la France ? C'est quoi ce discours ? C'est des nuls et à la fois ils vont nous envahir. Mais ça veut dire quoi tout ça ?
Ça s'appelle le tien inclus, c'est-à-dire que voilà, le problème c'est que ça marche très bien, cette propagande. Peut-être que la fabrique du crétin qui a commencé même pas avec les... depuis plusieurs dizaines d'années, a réussi à abêtir l'opinion publique, qui fait que le principe de non-contradiction, le principe de la logique de tiers exclus, eh bien, ne fonctionne plus. C'est le en même temps macronien généralisé. Ils sont à la fois très, très, très dangereux, horribles, ils vont nous envahir, et en même temps, ce sont en effet des bras cassés, des incapables qui sont en train de perdre la guerre. Et ça, c'est dit dans un même discours. Mais ça, c'est ça quand on ça normalement les gens qui profèrent ce genre d'énormité le font à la solde. Les journalistes sont à la solde des les médias menteurs. Ce sont les médias officiels. Ils sont à la solde du pouvoir. Mais normalement, personne, tout le monde devrait éteindre tout de suite sa télé d'entendre ce genre de dânerie, puisque justement, ça n'obéit pas au principe de base de non-contradiction, principe logique. Essentiel.
Nicolas, moi je me pose maintenant une question parce que ce discours il est depuis un moment, il est installé. Les intentions guerrières vont de plus en plus s'amplifie, est-ce que ce n'est pas fait à un moment pour enlever l'aspect le russe est un agresseur et laisser juste l'aspect la Russie est à vaincre parce que c'est des nuls, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un élément qui va être enlevé à un moment pour dire, mais en fait, même pas la peine qu'ils nous attaquent, on va les attaquer parce qu'ils sont nuls. Vous voyez? C'est peut-être ça le...
Non, mais de toute façon, dans les principes de non-contradiction violée ouvertement, et en effet qui ne peut s'adresser qu'à des crétins, qui sont les seuls à pouvoir gober des choses pareilles, vous avez par exemple, la guerre c'est la paix, ou la paix c'est la guerre, c'est-à-dire en faisant la guerre pour restaurer...
La paix par la guerre.
Pour la paix, faisons la guerre pour la paix, privons les Français de démocratie au nom de la démocratie. C'est courant, c'est devenu très courant. Vous en pensez pas, Michel ?
C'est la position de Donald Trump, hein, qui fait la guerre pour la paix.
Voilà.
Il l'a dit très clairement. Voilà, d'ailleurs je le crois pour le coup, bon, relativement sincère par rapport à Macron. C'est-à-dire que Donald Trump n'est pas un belliciste dans sa nature, dans sa psychologie. Voilà. Emmanuel Macron, lui, oui, parce qu'il en a besoin psychologiquement parlant. Voilà. Trump, non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Voilà. Mais effectivement, il a besoin de temps en temps de montrer les muscles. Voilà. C'est l'idée du gendarme du monde, la vieille idée américaine du gendarme du monde. Hein. Donc on va mettre de l'ordre partout, on va éliminer toutes les corruptions, etc. Voilà. Sans regarder, évidemment, à balayer d'abord devant sa porte.
Alors, il a même fait plus fort dernièrement, Trump, il a dit, en donnant la possibilité de batterie de missiles patriotes, des licences aux Ukrainiens, il a expliqué, oui, on lui a dit, mais c'est une escalade, il dit, oui, c'est une escalade pour la paix, qui servira à la paix. Voilà.
Non, mais c'est aussi la grande différence avec Emmanuel Macron, sans vouloir défendre ces derniers, mais quand même, je pense que le premier est véritablement plus fou que le second. C'est-à-dire que Donald Trump fait absolument n'importe quoi.
Ah oui.
N'importe quoi. Et il est le chef de la plus grande puissance du monde. Il fait n'importe quoi. C'est-à-dire, je me demande encore pourquoi les commentateurs sur les chaînes, notamment mainstream, continuent d'analyser. Ah ben, il a dit que... Ah ben, oui, mais il a dit absolument le contraire la veille. Hein. Voilà, les Iraniens... sont des satans. Ah oui, mais maintenant on a de bons dirigeants, etc. Voilà. C'est vraiment n'importe quoi. Même Macron n'arrive pas à être aussi mauvais de ce point de vue-là.
Ça, c'est assez juste. Mais ce sont tous les deux des grands mégalo-timiaques, selon vous, Michel Fize. Et on va y revenir dans un instant dans la tête de Macron, Michel Fize. On aura le bobino juste avant. On a pris plus de temps pour la revue de presse, mais on rigole un peu, ça fait du bien. Et alors, je vais vous poser la question. Alors là, moi, je n'en suis pas revenu. C'est pour terminer cette revue de presse. C'est l'IFOP, plus précisément l'IFOP fiducial, c'est son tableau de bord des personnalités, classement des personnalités en juillet 2026. Hein. Eh bien, tenez-vous bien. Alors, bon, la personnalité préférée des Françaises n'est pas une personnalité politique, c'est plutôt une personnalité du monde économique. C'est Michel-Édouard Leclerc. Bon, on en pensez ce que vous voulez. Qu'importe. Mais c'est pas ça le plus drôle. C'est quelle est, Lara et puis Michel, selon vous, la personnalité politique préférée des Français. Et si après, ce genre d'ânerie, ce qui est dit dans ce sondage, dans ce tableau de bord, si ça justement c'est pas de l'ingérence intérieure, un mensonge éhonté pour orienter les votes, alors là, je crois que justement cette loi sur l'ingérence intérieure devrait tout de suite venir frapper Paris Match et Sud Radio, puisque c'est Sud Radio et Paris Match qui ont diffusé ce tableau de bord. Donc je vous pose la question, selon ce média et selon ces sondages qui peuvent être que truqués, les Français sont ce qu'ils sont, mais quand même, je n'ose imaginer que ce soit vrai, quelle est selon vous, d'après ce sondage, la personnalité politique préférée des Français ? Lara.
Moi, je vais tenter Édouard Philippe.
Alors c'est pas mal, ah ben bravo, c'est pas Édouard Philippe, mais il arrive juste après notre champion du monde. C'est votre dernier mot ?
Non, ils n'ont pas quand même osé Emmanuel Macron.
Ah non, il est anglais, non, Macron est très 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 bas. Bardella monte beaucoup, non.
Je
vais vous
d'accord.
aider.
Non, le cornu.
Non, je vais vous aider, je vais juste vous donner un indice, et à Michel va répondre aussi. L'indice, c'est que c'est un homme politique, cet homme politique, c'est un revenant.
Alors,
Non,
Villiers?
Castex?
Non, c'est pas de Villiers, pardon.
Castex?
Non, c'est un revenant. Castex, il est parvenu, il est directeur de la SNCF, mais il n'y est pas. Un revenant, depuis quelque temps déjà. C'est moi,
Cazeneuve?
j'ai.
De Villiers?
Non, non, non.
Non, non.
Non, ça serait bon.
Manuel Valls, non, là, ce serait pas
Ah, ça serait pas mal. Eh bien, non, je vous le donne. Allez, vous donnez
mal.
votre langue au chat.
Ah
Oui.
oui.
Eh bien, c'est notre capitaine de pédalo, notre flambi nationale. C'est François Hollande. La personnalité politique des Français, il avait quitté le pouvoir, il n'avait même pas pu se représenter, il faisait 5%. On lui donnait 5%, même pas 5% à la présidentielle. Il a été obligé d'abandonner en 2017 et ne pas se représenter. Aujourd'hui, selon Paris Match et Sud Radio, c'est François Hollande, la personnalité politique préférée des Français.
Juste un petit
Oui.
mot, Nicolas. Si c'est l'IFOP, où était le président d'IFOP hier? Ben, je vous donne en mille, il était en tribune avec Emmanuel Macron, donc
Il
parmi
est
les amis des
absolument. Il
personnes.
était en tribune avec Emmanuel Macron, le président de l'IFOP. C'est entre autres une information qu'elle nous a donnée François Asselineau.
Avec images à l'appui.
Oui, absolument.
Non, mais là, ça pose un problème que moi j'ai souvent évoqué dans mes livres, c'est le statut des instituts de sondage et la
Oui.
période d'activité
Allez.
ou de légitimité. Je continue de penser qu'au moins à quelques mois d'une échéance présidentielle, les instituts de sondage devraient être interdits. Interdits. On n'a pas à indiquer aux Français ceux ou celles pour qui il serait convenable de voter. Hein, parce qu'effectivement, on fait des auto-prédictions réalisatrices, hein, comme on dit. Hein, évidemment, bah,
Tout à fait.
si on dit, alors ceci étant, qu'on choisisse François, ça m'étonne à peine. Ça m'étonne à
Oui.
peine parce que il y a le principe aussi de la mémoire courte.
Ah
Hein,
oui, ça
voilà.
va.
Quel est l'un des plus populaires hommes politiques local? Patrick Balkany. Patrick Balkany. Voilà. S'il était plus jeune, il serait maire à nouveau demain matin. Demain matin. Voilà. Bon, donc, effectivement, bah, les Français ont peut-être oublié le bilan catastrophique de François Hollande. Alors, ceci étant, tout ceci n'est pas encourageant pour 2032, ce qui me permet de faire une petite correction des analyses habituelles, parce que
Oui.
si on part de ce principe-là, on pourrait revoir des Français nous dire en 2032, oh là là, Emmanuel Macron, ah oui, Emmanuel Macron. Bon, voilà, alors, sauf à considérer encore une fois, comme vous l'avez dit, que ces résultats ne devraient absolument pas être pris au sérieux du tout, voilà, et qu'on devrait encore une fois effacer toute cette manipulation des esprits. Enfin, François Hollande, président.
C'est absolument énorme. Et d'ailleurs, je crois qu'il secrètement, mais les journalistes le savaient, hein, c'est très secret, mais tout le monde le sait. Le tout Paris bruisse de rumeurs comme quoi ce soir, Flamby François Hollande réunit ses soutiens. Je pense qu'il
Non,
va
mais
nous
encore une
annoncer sa
fois, là,
candidature.
il y a un principe de sociologie politique élémentaire. Tout président sortant, pour telle ou telle raison, aspire à revenir au pouvoir. Tous.
Oui,
Hein?
et
En
aucun n'y est
commençant par
arrivé.
M. Giscard d'Estaing, qui ont
Sarkozy,
subi
l'empereur.
le traumatisme toute la vie.
Appelé
Voilà.
Lex.
Voilà.
Lex.
Nicolas Sarkozy, s'il en avait eu la
Hein.
capacité, la pleine capacité juridique,
Et il a
évidemment
tenté,
qu'il.
il a
Oui, là.
participé aux primaires.
Tout à
Oui,
fait.
oui, oui, oui. Mais là, maintenant, bon, avec toutes les affaires qui lui sont tombées sur la
Bah.
tête, bon, ça paraît un peu
Oh,
plus
les
compliqué.
Français peuvent aussi oublier ça, voyez. C'est comme Balkany. Vous voyez, à un moment, ils sont capables d'oublier
Ah
ça aussi.
oui, ça, je. Oui. Vous savez, c'est aussi le principe, bon, de toute manière, les Français existent tous pourris. Bon. Donc, prenons le moins pourri parmi les pourris.
Tous pourris, votons pour eux. Voilà, c'est comme ça que je résume maintenant. Avec
Marine Le Pen a été condamnée en appel, hein, quoi qu'on en pense. Elle a gagné 4 points dans les sondages. Hein. Je crois que bientôt, on gagne à être condamné par la justice. Bien. Eh bien, écoutez, chers amis, si vous, à moins que vous ayez une information particulière que vous vouliez nous soumettre, Lara.
Non, non, je vous remercie. C'est 20 minutes se transforment en 40, mais c'est pas grave.
Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, ce que je propose à nos chers auditeurs et ce que je vous propose, avant de retrouver Michel Fils pour un entretien sur son livre Dans la tête de Macron, aux éditions de Géopolitique Profonde d'ailleurs, c'est de laisser passer ce très court bobino.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans ce libre journal de... vous êtes dans ce libre journal de la résistance française. Et je ne vois pas de questions. Je suis très surpris qu'après 45 minutes de revue de presse, eh bien, aucune remarque, observation, question n'ait été posée. Est-ce que vous étiez très attentif? Est-ce que c'est que l'on ne m'a pas encore communiqué vos questions? Mais en tous les cas, pour le moment, je n'ai pas sur mon téléphone portable les questions éventuelles des auditeurs. Je fais cet appel, entre autres, à la technique de ne pas hésiter à m'envoyer les questions s'il y en a. Voilà, je reçois, après cette revue de presse avec Lara Stam, eh bien, notre invité principal de ce soir dans ce libre journal de la Résistance française, chers auditeurs de Radio Courtoisie, eh bien, Michel Fils, pour son ouvrage « Dans la tête de Macron ». Alors, mon cher Michel, je crois que vous avez été invité par Mike Borowski dernièrement dans un libre journal des controverses. Oui. Voilà, donc les auditeurs de Radio Courtoisie ne sont pas sans avoir une certaine connaissance de votre ouvrage. Est-ce que vous pourriez quand même nous faire déjà, dans un premier temps, un petit résumé de ce que vous avez découvert en vous introduisant, non pas par effraction, mais en tout cas de subrepticement, dans la tête de Macron? Le concert.
Alors d'abord, comme vous l'avez souvent souligné, c'est le troisième opus sur Macron.
Voilà.
Puis, surtout le deuxième qui, à mon avis, est le plus intéressant parce que le plus fouillé, le roi Brunzing.
Donc, voilà.
Donc le roi Brunzing, c'était déjà la pénétration avec le secours de la psychanalyse, de la psychiatrie, enfin, de tous les travaux qui peuvent être évidemment des grilles d'analyse, hein, parce que je l'ai dit et je le répète parce que le reproche m'est fait quelquefois, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, voilà. Mais j'ai le droit, comme chercheur en sciences humaines, d'utiliser tous les matériaux disponibles, y compris les matériaux, évidemment, issus des sciences médicales et psychologiques. Donc, je ne me suis pas gêné pour faire ce travail. Alors, j'ai envie de dire que finalement, Emmanuel Macron, pour renverser un peu l'ordre des mots, c'est une pathologie psychique.
Oui.
Pas psychopathologie. Une pathologie psychique. Parce que j'avais utilisé un jour l'image du grand saladier. Alors, c'est un grand saladier qui permet de faire une grande tambouille. Voilà. Hein. Et pour faire un bon plat cuisiné macronisé, vous mettez dans votre saladier un zeste de psychopathie, un zeste de psychorigidité, un zeste de perversion narcissique, un zeste de paranoïa, bon, on pourrait en citer encore quelques autres, enfin, vous remuez, vous laissez macérer quelques minutes, et vous obtenez effectivement une pathologie dysfonctionnante. Voilà, quelque chose qui fait que on n'a pas une pathologie qui soit contenue dans des limites, hein, parce que le narcissisme, par exemple, on sait aujourd'hui que évidemment que chacun de nous est narcissique, plus ou moins, et qu'il vaut mieux l'être d'ailleurs un peu que pas du tout, voilà. Mais quand c'est trop, c'est trop. Et donc quand c'est trop, on déborde sur effectivement la normalité. Voilà.
La alors, pathologie.
Voilà. Je suis parti avec Macron d'abord de cette anormalité avec le petit tiret entre le A et normalité, c'est-à-dire pour montrer que c'était un homme qui avait par habitude depuis sa plus tendre enfance la tentation, d'ailleurs qu'il mettait en acte, de s'affranchir des normes familiales, parentales, conjugales, sexuelles, politiques, sociales, culturelles, on pourra rajouter toutes les normes. Voilà, c'est-à-dire, il est à côté. Hein. Alors, je signale d'ailleurs que Donald Trump a dit récemment la même chose, qu'il était en admiration pour les gens qui étaient hors normes et qu'il aimait avoir dans son équipe des gens qui ne sont pas… Voilà. Donc, ce sont des gens, effectivement, ce sont des auto-fabriqués politiques, hein, les Trump, Macron et Zelensky, pour en rajouter un troisième, hein, par rapport donc au profil plus traditionnel politique, que ce soit Vladimir Poutine ou le président chinois ou le président nord-coréen, le chef du gouvernement indien, enfin, etc., etc. Hein, voilà. Donc, dans mon saladier, on rajoute évidemment ce zeste de la normalité. Voilà. Et puis, sur le couvercle, j'ai mis le concept de mégalotimie.
Voilà. Voilà.
Et la mégalomanie plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'attitude de quelqu'un qui s'affiche dans une posture verbale d'action de supériorité absolue, totale, par rapport à tout ce qui se présente devant lui et par rapport à toutes les personnes qui sont en face de lui. Hein. Je crois qu'on parlait tout à l'heure effectivement de ces nominations de personnes macroniennes dans les grandes institutions. Mais en réalité, il n'a pas nommé des personnes, il a nommé des pions. Il ne les considère pas comme des personnes. Hein. C'est comme sur la couverture hein, avec l'échiquier qu'on voit là. Hein, l'échiquier
tout à fait.
Voilà. Donc, il déplace des pions. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Eh bien, il affirme, j'allais dire tout primairement, sa toute-puissance. Vous voyez, je peux nommer. Voilà. Alors, si en plus, évidemment, il ne va pas nommer quelqu'un qui va le desservir, mais l'acte important, c'est l'acte psy. Je nomme, je suis puissant, je nomme. Hein. C'est comme Nicolas Sarkozy qui, en audience, j'avais rappelé ça, je ne sais plus à quelle émission, avait dit, maintenant, président, je n'ai plus personne au-dessus de moi. Bon, c'est d'ailleurs le propre de toutes les sociétés déspiritualisées, désacralisées. Il n'y a rien au-dessus.
Voilà. Oui, oui.
L'individu, il est tout seul, il est livré à lui-même, il fait ce qu'il veut et il devient donc cet individu omnipotent, omniscient, où chacun aujourd'hui sait tout sur tout. Hein. Alors, d'ailleurs, ça pose le problème de la fabrication du savoir, hein, puisque évidemment tout est équivalent. Bah, le savoir aujourd'hui est ramené au rang d'une simple opinion qui peut vous passer par la tête à un moment donné. Voilà, alors tout ça c'est une fabrication qui remonte à très très loin, très très loin. On pourrait presque peut-être remonter ça au jeune Emmanuel en culotte courte, hein, quand il était avec sa famille, avec sa grand-mère, voilà aussi le rôle important de la grand-mère, hein, une identification, hein, la personne âgée. Hein, on sait l'espèce de fascination qu'il a quand même pour les personnes âgées, hein, alors bon, peut-être commençons par son épouse, mais aussi par le fait que ce qui lui plaît dans Poutine, c'est qu'il est plus âgé que lui. Voilà. Donc, quelle délice de pouvoir tutoyer le président russe.
Ouais.
Il tutoie les gens plus âgés. Voilà. Donc,
c'est pareil avec Trump. Hein.
Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, en quelque sorte. Ce qui est je crois, important dans cette affaire, c'est que cette supériorité, c'est une supériorité affichée, mais pas forcément ressentie. Car il y a derrière, ce qu'Alfred Adler avait très bien montré, le complexe d'infériorité. Voilà. Et d'ailleurs, pour le préciser un peu, le complexe de virilité. Hein. On voit bien que quelque part, Emmanuel Macron doit se vivre à certains moments comme un homme moins moins.
Ah oui.
Voilà. Hein. Donc les postures, effectivement, les postures qu'il prend de boxeur, de footballeur, bon, etc. Enfin, toutes les images qu'on a bien connues. Voilà. Et puis quelqu'un qui est manifestement en carence affective. En carence affective, hein, parce que vous le rappeliez, et vous le rappelez souvent aussi, hein, toucher, voilà, embrasser, oui. Poser oui. La tête, poser la main sur la
pour
tête.
Pour vous, c'est de la carence affective à l'origine.
Ah oui, oui. Ben, alors c'est ça pour partie, mais c'est aussi un moyen d'affirmer la domination. Hein. Voilà, hein, comme effectivement, poser la main sur la tête, hein, c'est un acte royal quelque part. Hein, voilà. C'est comme quand on nommait quelqu'un chevalier, hein, voilà, l'épée sur
l'épaule. J'aime bien mettre la main sur l'épaule, qui est une façon, par derrière sur l'épaule, ce qui est une façon de dominer, clairement.
Voilà, alors tout ça en étant à la fois dans la paternité et la fraternité. Hein. Quelquefois, j'ai l'impression de ne plus savoir où il en est, hein. C'est-à-dire, il est en costume vertical, à la fête nationale, et puis on va le retrouver dans une vidéo en t-shirt, hein, en tenue plus décontractée de vacances, hein, à Brégançon ou ailleurs, hein, faisant oui. du jet ski ou pas. Voilà. Donc c'est tout ça. C'est un Edgar Morin aurait parlé de la complexité. Mmh. Là, on a un bel exemple d'une apparente complexité psychique qui, en réalité, cache une très profonde infériorité, une insuffisance psychique. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, il y a quelque chose qui n'est pas achevé. Voilà. Mais quand quelque chose n'est pas achevé, si effectivement il n'y a pas une prise en charge thérapeutique, ça ne sera jamais achevé. Voilà. Donc si on reparle de Macron dans 10 ans ou dans 20 ans, peut-être qu'on en parlera exactement dans les mêmes termes. Parce que rien n'aura changé. Bon, hormis peut-être sa vie conjugale, parce que quelque part aussi, bon là, nul ne sait de quoi l'avenir sera fait par rapport à un couple. Les couples sont pas toujours à contrat indéterminé, hein, donc il peut y avoir des ruptures pour telle ou telle raison. Voilà. Mmh. Donc je pense que dans cette image d'Andrea, hein, qui m'a fait immédiatement penser à la trépanation, moi je dis, et je dis à nos auditeurs et internautes, c'est une boîte à idées. Voilà. Ben, remplissez-la, rajoutez des ingrédients, peut-être que j'ai oublié. Vous savez, entre l'opus 2 et l'opus 3, j'avais oublié la méchanceté. Voilà. Et moi qui lis attentivement les commentaires sous les vidéos, hein, parce que je trouve que c'est toujours très, très intéressant, un peu à risque quelquefois, parce que c'est pas toujours très sympathique ce qu'on vous dit, ni d'ailleurs pour les présentateurs, hein, parce que tout le monde
non, non.
Parle, hein, quelquefois.
Voilà. Certes. Bon.
Donc effectivement, il peut y avoir des choses oubliées. Mais encore une fois, on peut pas être face à un personnage comme ça, que nul n'a mis sur un divan et nul n'a reçu en cabinet, être dans la certitude. Voilà. Donc, quand j'entends dire c'est un pervers narcissique, bah oui, j'avais fait un tableau, hein, dans Le Roi Brunzingue, j'avais fait un tableau où j'indiquais que finalement, c'est vrai qu'Emmanuel Macron présentait à peu près tous les symptômes de chacune des grandes pathologies, mais sans qu'on puisse dire qu'il entrait dans une en particulier. Voilà. Bon. D'où le fait.
Alors, les trois livres donc de Michel Fize, c'est Le Président A, normal, Le Président Brunzingue,
Le Roi Brunzingue,
oui. Et Dans la tête de Macron, aux éditions cette fois-ci Géopolitique Profonde. Michel Fize, J'ai une question à vous poser sur, au vu de ce que vous venez de dire. Vous savez, l'éminent professeur Zegatori, le bon docteur Zegatori, eh bien, a fait deux vidéos, une en 2017, une en 2022. Il est psychiatre. Et il a mis en garde les Français et ensuite les Européens dans leur ensemble, les Italiens aussi, sur la dangerosité d'Emmanuel Macron. Est-ce que, selon vous, Michel, Macron est quelqu'un de dangereux?
Oui, parce qu'il ne s'appartient pas. Je le disais, je crois, encore ce matin, quelque part, il est aussi victime de sa propre pathologie. Hein. Donc, il est à la fois juge et partie, victime et auteur de ce qui lui arrive. Alors, ça permet de dire, bon, j'ai un regard un peu, disons, retenu par rapport à Zegatori, hein, parce que finalement, quel est le privilège de Zegatori dans cette affaire? Bah, c'est que c'est le premier à avoir dit, hein, un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui convenues dans la plupart, chez la plupart des gens. Voilà. Mais d'un point de vue méthodologique, hein, je continue de penser quand même qu'un psychiatre qui ne voit pas son patient, ça pose quand même un problème. Hein. On ne sait pas très très bien comment il a travaillé. Alors ceci étant, par rapport à la dangerosité, là les faits ont montré que ce soit en psychiatrie ou en sociologie, l'intuition c'est important aussi. L'intuition c'est pas anti-scientifique. L'intuition ça fait partie du bagage du scientifique. Hein, sans intuition, on n'aurait pas eu les grandes découvertes, qu'elles soient astronomiques, chimiques ou autres. Voilà. Donc quelque part, Zegatori a effectivement bien dit les choses. Mais je pense que résumer Macron à la psychopathologie, hein, à le définir comme psychopathe, ça résume pas le personnage complètement. C'est-à-dire, il y a d'autres symptômes, d'autres grandes pathologies. Et puis, je pense encore une fois, en parlant de mégalotimia, qui est un concept pas fondamentalement psychologique, hein, puisque c'est un concept de Fukuyama historico et psychologique, voilà. Hein, je pense que le besoin de supériorité à tout prix, partout, tout le temps, ça suffit à comprendre le personnage. Hein. Alors après, vous pouvez évidemment rajouter dans l'habit, comme je l'ai fait avec mon saladier, un peu de psychopathie, un peu de perversion, un peu de psychorigidité, un peu de narcissisme. Bon, voilà, mais encore une fois, et vous l'avez dit, c'est la centralité qui l'intéresse. Voilà, c'est d'être sous le feu des projecteurs. Ouais. Voilà. Et donc, là, au 14 juillet, on n'était pas à Paris, on était à Hollywood. On était dans les studios d'Hollywood, voilà, avec une parade, voilà. Ça me faisait penser, vous savez, aux grandes scènes de Fred Astaire, hein, où tout était parfaitement millimétré, hein, voilà, des choses qu'on a un peu perdu de vue. Voilà, c'était au cordeau, hein, au cordeau, c'était dessiné au cordeau. Voilà. Ça me paraissait, je lis ça aussi, ça me paraissait surréaliste, un peu surréaliste cette affaire. Voilà. Alors, sauf que là aussi, bon. Vous l'avez dit, hein, c'était l'occasion de la réunion de la grande famille des volontaires, préfiguration d'une Europe de la défense.
Oui.
Donc cette souveraineté puissance dont il parle, cette souveraineté européenne à laquelle il aspire, et bon, et à laquelle il n'a peut-être pas tout à fait renoncé. Hein, c'est-à-dire qu'entre le fauteuil de roi de France et le fauteuil de roi de l'Union européenne via le siège de von der Leyen, il peut y avoir le rôle intermédiaire de chef d'armée, le propulsant vers le pouvoir, hein, parce que bon, des chefs d'armée devenus chefs d'État vont commencer par de Gaulle. Hein, voilà, c'est une bonne trajectoire.
Alors, est-ce que la relation qu'il a avec Poutine pourrait conduire justement à provoquer une guerre, au sens où, en 2017, ce qu'il fait en général, au début, il cherche à séduire. Il a cherché à séduire Trump aussi, à séduire Poutine, à lui en imposer. En 2017, il est le premier chef d'État français a invité Vladimir Poutine au château de Versailles. Il l'invitera ensuite dans la résidence des chefs d'État étrangers, des chefs d'État. Villégiature estivale au fort de Brégançon. Il cherche à le séduire et comme ça ne marche pas, eh bien, il devient de plus en plus agressif avec lui. Est-ce que ce mélange de sentiments de supériorité et d'infériorité pourrait conduire à une forme d'agressivité avec une relation modèle-obstacle avec Poutine pour Macron?
Mais d'abord, il ne comprend pas qu'il ne séduise pas.
Oui.
Pour lui, c'est de l'ordre de l'impensable. Hein. Il est convaincu, mais c'est vrai qu'on l'a installé au pouvoir avec, évidemment, ce côté séducteur, ce côté de jeune homme en politique, venant, en tout cas, pas du sérail politique traditionnel. Voilà, donc avec des comportements de gamin qui ajoute évidemment à ce côté séducteur qu'il croit posséder. Hein, à l'heure où l'on parle, je crois qu'il est encore convaincu que Donald Trump est son ami. Mmh. Et son ami, que Donald Trump l'aime beaucoup. Alors que, je l'explique aussi dans une partie du livre, je crois que ni Vladimir Poutine, ni Donald Trump, qui sont quand même des gens avisés de ce point de vue-là, n'ont jamais pris Emmanuel Macron au sérieux. Bon, il voit qui il est, il voit quel État il dirige, voilà, qui du reste n'est même plus une puissance moyenne. Hein. Je crois que Macron aura réussi la performance de rétrograder le statut de la France, devenue une petite puissance supérieure, si l'on pouvait dire. Voilà. Mais qui, je crois, a même perdu ce que De Gaulle avait réussi à fabriquer. Hein, c'est-à-dire une puissance moyenne avec un grand pouvoir d'influence. C'est-à-dire, il y a 50 ans, la voix de la France comptait. Maintenant, où compte la voix de la France? Voilà. Alors maintenant, j'ai pas suivi s'il y a eu ou non réaction de Vladimir Poutine après cette démonstration donc de parade hier. Vladimir Poutine a mal pris cette démonstration pro-ukrainienne et pro-européenne, ou bien est-ce que il est toujours dans cette retenue qui fait que tout ceci lui paraît pas très sérieux, voilà, et qu'il préfère se taire plutôt que de s'engager dans une polémique qui n'aurait pas grand intérêt.
Il donne l'impression, Poutine, d'être assez indifférent et de voir de haut, de très haut, ce genre de gesticulation. Après, ce qu'il pense au fond de lui-même, c'est peut-être autre chose, je ne sais pas.
Oui, alors là, on est aussi évidemment dans le problème du psychisme profond. On peut descendre très très bas dans la boîte crânienne, mais il y a des zones obscures. Hein, il y a des zones obscures pour lesquelles, évidemment, Il reste l'incertitude au niveau de la connaissance. Voilà, mais je pense que dans les mois qui vont venir, Emmanuel Macron va accélérer sa présence tous azimuts. Alors d'ailleurs, je sais pas comment on peut faire plus tous azimuts que le tous azimuts actuel, hein, puisque il est partout, hein. Vous l'avez dit, il aurait pu être aux États-Unis si la France avait gagné, donc sa demi-finale. Mais là, je pense quand même que il faut faire attention parce que je crois que on n'a pas non plus à prendre acte du fait accompli et à se dire ah ben oui, mais au moins on a échappé à cette espèce de récupération. Voilà. Mais le peuple, il a le droit aussi, hein, vous savez, le pain et les jeux, comme disaient les Romains. Voilà. Je pense que le peuple a le droit de ne pas se faire voler non plus une joie fantastique. Hein. Moi, je vous l'ai dit, comme ancien sportif, voilà, ça me peine quand même cette victoire, cette défaite. Mais je pense que les Français sont capables aussi de faire leur propre manifestation. Hein. Sans tenir compte, évidemment, des gesticulations, on a bien vu, hein, aux Jeux Olympiques à Paris, là, on était au summum de la récupération. Voilà, c'est de la récupération. Voilà, donc je pense qu'on a, on a le droit de ne pas se faire voler aussi ce que j'ai appelé des émotions justes. Voilà, bon, une grande victoire qui ne fait pas de mort. Voilà. Bon, c'est quand même mieux qu'une grande victoire qui laisse sur le sol des milliers de jeunes, voilà, qui n'auront pas. Parce que moi, je conduis de penser que le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie.
Alors justement, le droit à la vie et la loi sur l'euthanasie, parce qu'il la pousse, semble-t-il, il est quand même assez, encore une fois, je trouve paradoxal et dangereux, Emmanuel Macron. On le sait, il est séducteur des personnes âgées, il l'a toujours fait dans toute sa carrière pour monter les échelons les uns après les autres, une sorte de gérontophilie. Et par ailleurs, eh bien, il est celui qui pousse même envers son Premier ministre, Le Cornu, pour l'accélération de l'adoption de la loi sur l'euthanasie, sur la fin de vie.
Mais là, je pense encore une fois qu'il y a des domaines dont l'État ne devrait pas s'occuper. Mmh. Voilà. Ça, ce n'est pas la responsabilité de l'État. Ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Et je pense qu'on a le droit de quitter ce monde de la manière qu'on le veut. De la manière qu'on le veut. Voilà. Mais on n'a pas à réunir une collection de savants, de scientifiques, pour vous dire, ben là, vous remplissez les conditions ou vous ne remplissez pas les conditions. Je pense qu'on a aussi, alors je ne sais pas comment on peut mettre tout ça en scène, mais on a aussi le droit à la mort dans la dignité. Voilà. Je pense que, quelque part, quand on est dans des douleurs insupportables, hein, quand on est effectivement…
Mais il y a des soins palliatifs. Il y a des soins palliatifs.
Oui, mais palliatifs, ça oui. Ah. Mais bon, alors, il faudrait peut-être améliorer, peut-être d'ailleurs qu'on aurait mieux fait. Mmh. Je crois d'ailleurs que les spécialistes se plaignent qu'il n'y ait pas suffisamment d'intérêt porté aux soins palliatifs. C'est vrai qu'on pourrait développer davantage ce registre des soins palliatifs. Voilà, mmh. Mais je pense qu'on n'a pas le droit de laisser souffrir des gens. Hein, c'est bon, vous savez, bon, moi j'ai vu ma mère mourir d'un cancer généralisé, donc, il y a 50 ans, c'est terrible. Voilà. Or, d'ailleurs, ça met à bas cette théorie funeste de la résilience. On ne résilie jamais rien dans la vie. Voilà. Hein. On s'accommode, évidemment, des épreuves qu'on a subies. Voilà. Hein. On les contient du mieux qu'on peut. Voilà. Mais encore une fois, voir ceux que l'on aime, effectivement, dans des situations de douleur extrême, alors surtout que dans les années 70, on n'avait pas, en termes d'antidouleur, ce que l'on a aujourd'hui. Voilà, donc je pense que pour moi, ce qui doit guider, c'est la dignité et le choix des humains. Voilà. Moi, je pense que l'État n'a pas à se mêler de ces choses-là. Il n'a pas à dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas son rôle, pas son rôle. Sinon, alors, on perd tout notre champ des libertés individuelles. C'est important, les libertés individuelles. Hein, il n'y a pas que les droits sociaux, il y a les libertés individuelles. Voilà, les devoirs, ben oui, les devoirs, mais on a aussi des droits. Enfin bon, c'est un sujet compliqué, hein. Sujet compliqué. Voilà, mais on n'a pas. Ben c'est un peu comme la dissuasion nucléaire, ça. Pop, allez, j'appuie sur un bouton, c'est moi qui décide. Ah ben voilà, la loi sur l'euthanasie, ce sera ça et pas autrement. Voilà, je trouve que la limite, si on avait voulu être. On aurait fait plusieurs lois sur l'euthanasie, plusieurs lois. Il n'y a pas de situation qui se ressemble. Voilà. Et puis en plus, bon, on peut ruser. Hein, si on n'obtient pas des possibilités qui conviennent ici, ben on va en Belgique, on va en Suisse. Voilà. Il y a des pays quand même qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus humains. Hein. C'est une affaire d'humanité, cette affaire. Pas une affaire de loi, c'est une affaire d'humanité. Voilà. Voilà. Mais on n'a pas le droit de laisser souffrir. Laisser souffrir des personnes comme ça.
Voilà, sur l'euthanasie, ce n'est pas nécessairement une souffrance de type cancer généralisé. Hein. Ça peut être des souffrances psychologiques, ça va très loin.
Bien sûr. Mais là, je crois qu'on ne peut pas faire non plus de distinction entre le psychologique et le psychique. Hein. D'ailleurs, tout s'emboîte souvent assez étroitement. Mais bon, il y a des situations psychiques incurables. Bon, alors évidemment, hein, il faut faire attention parce que là, on peut tomber facilement dans le discours du 19e siècle, hein, l'eugénisme. Hein, voilà, on va se débarrasser On va se débarrasser des indésirables, des inutiles. Aussi, la notion d'utilité sociale
ouais.
a été déformée de son usage. Hein, comme quoi, d'un bon concept, on peut faire une mauvaise idée.
Alors, on a un auditeur qui nous m'envoie une petite caricature, une petite bande dessinée où on voit un médecin qui dirait « Vous verrez, madame, comme ça, votre mari ne souffrira plus. » Et il lui dit à son épouse « Au revoir, chérie. » Mais alors, c'est un animal. Il est devenu comme un animal. Il ne bougeait plus, il ne parlait plus. Alors, je ne sais pas si cette dame s'est mariée avec son chien, mais en tous les cas, bon, c'est assez drôle. J'en remercie cet auditeur. Un autre auditeur nous dit « Les Français n'ont pas de mémoire ». Vous voyez, pour revenir, Michel, un petit peu à ce que nous disions tout à l'heure dans la revue de presse, « Les Français n'ont pas de mémoire. En 40, ils remettent aveuglément leur destin entre les mains de Pétain. En 44, ils le condamnent. Et aujourd'hui, bien plus encore, Macron déclare « Pour la liberté et le droit, alors que le sieur a bafoué ladite liberté, quant au droit, n'en parlons pas davantage, la loi ne le concerne pas. » Lu dans un livre dernièrement, ouvrez les guillemets, en réalité, ce qu'il tolérait pour ses soldats et qu'il s'interdisait pour lui-même n'était aucunement affaire de morale, mais de respect de soi. Il était le chef. Il se devait d'être irréprochable et même davantage encore. Il y avait et il y aura toujours une sorte de fascination, non exempte d'admiration, pour un adversaire qui place ses convictions au-dessus de son confort personnel. Erwan Bergeau Bijard, édition Perrin. Tout le contraire, nous dit cet auditeur, d'un Macron et de l'ensemble de ses suivants, hein, avec très très peu d'exceptions. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, mais je pense que ce qu'on appelle parfois rapidement le sociétal, hein, toutes ces grandes questions, c'est des questions qui sont de la responsabilité de chacun de nous. Voilà. C'est pas un homme ou un groupe d'hommes ou un groupe de savants qui peut décider ce qui est bien ou pas bien. Voilà. J'allais dire, reprenant peut-être une vieille idée, la société c'est nous, c'est pas eux. La société c'est nous. Voilà. Donc la société est faite pour l'individu et pas l'individu pour la société. Voilà. Bon, c'est des propos d'une grande simplicité que je rappelle, mais bon. C'est les principes élémentaires qui permettent parfois de progresser. Donc c'est vrai qu'il y a des grands sujets, hein, il y a des grands sujets qui méritent encore une fois que le peuple le plus entier possible se prononce. Voilà, je pense que c'est le cas de l'euthanasie, hein, qui d'ailleurs pourrait donner lieu à référendum. Voilà, mais alors avec des questions qui seraient autrement ficelées que les questions habituelles des référendums. Ou avec la question, vous avez déjà la réponse.
Oui, c'est sûr. Tout à fait, Michel. Écoutez, il nous reste moins de 4 minutes dans cette émission. Je rappelle votre ouvrage que je ne saurais trop conseiller à nos auditeurs de se procurer, « Dans la tête de Macron », livre de Michel Fize, aux éditions Géopolitique Profonde. On rappelle aussi les deux ouvrages précédents, toujours sur Macron, Le président anormal, ça c'est quelle maison d'édition, Michel?
Alors, le président anormal, il lui est arrivé une vilaine chose, c'est qu'il n'est plus disponible.
Ah!
Donc, il a été effacé. Voilà. Alors, il s'appelait d'ailleurs Un président anormal, la suite, hein, suite à une mauvaise aventure avec le précédent éditeur.
Ah ben, dites donc.
Voilà.
Pas de chance.
Voilà. Et donc, j'ai eu un souci avec KDP qui a fermé mon compte. Voilà. Pour une question simple, j'avais tout simplement changé le titre du livre, voilà, pour le rendre peut-être plus large, voilà. Mmh. Et donc on m'a dit, ah ben oui, mais vous avez voulu tromper le client en présentant avec un nouveau titre un titre qui était déjà ancien, voilà. Et donc là, vous avez la grande machine américaine Amazon qui, hop, hein, sans procès, vous raye des cartes, voilà. Donc ce livre-là, il est voilà, donc je n'en parle même plus. Il est pour le moment introuvable parce que invendable, puisqu'il n'était vendu que sur Amazon. Voilà. Alors par contre, le roi Brunzing, il a été réédité par mon ami Jean-François Gross, qui dirige Cabaret Voltaire Édition. Voilà. Et donc lui, il est toujours disponible. Je pense que ces deux livres sont intimement liés. Alors évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir lu le roi Brunzing pour comprendre dans la tête de Macron. Enfin bon, si on lit les deux, on a, je sais pas comment on dit, la diologie. Bon, la trilogie, c'est qu'on dit la trilogie, mais deux, bon, je sais pas, diologie, bon, diade.
Dialogie.
Bon, dialogie peut-être, oui.
Eh ben écoutez, donc voilà, ces deux ouvrages, et surtout le dernier, Dans la tête de Macron, les éditions Géopolitique Profonde, Michel Fize, le sociologue Michel Fize. Très bien, écoutez, je pense que cette émission tire à sa fin. Merci encore d'avoir participé non seulement à cette revue de presse enlevée avec Lara Stam, mais aussi de discussions avec le fil d'Ariane qui s'imposait pour aller dans la tête de Macron creuser et y trouver peut-être le Minotaure. Voilà, un grand merci.
Je vais regarder Argentine-Angleterre parce que je crois que c'est dans 4 minutes. Voilà, et je souhaite ardemment la victoire de l'Angleterre.
Ah, très bien.
Voilà. Pour qu'on ait au moins une revanche dans la petite finale entre la France et l'Argentine, ce qui serait assez croustillant. Mais je pense qu'on va avoir de façon un match sans doute tendu ce soir. Hein. Entre Argentins et Anglais, hein. L'affaire des Malouines est toujours...
Ah, l'affaire des Malouines, exact. Oui, faites bien nous le rappeler. Sûr, hein.
Donc ça va être, je pense, tendu. Hein. Puis... j'espère qu'on n'aura pas un problème d'arbitrage. C'est un Marocain qui va arbitrer, qui a une bonne réputation. Donc, souhaitons-lui bonne chance.
Eh bien, très bien, on lui souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Michel Fize. Merci, chers auditeurs, de votre écoute. Excellente soirée en compagnie des programmes de Radio Courtoisie. On se retrouve, pour ma part, samedi à 9h pour le Libre Journal de Géopolitique Profonde. Merci encore.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Résistance française dirigé aujourd'hui par Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 15 juillet 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.